Bonjour, bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, votre émission qui vous donne l'opportunité de vous exprimer sur des sujets qui vous intéressent sur les ondes de Radio Tapi. Ce mercredi 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui permet de mettre un accent sur les enjeux de l'alphabétisation dans un pays, surtout dans un pays en voie de développement comme la RDC. Selon les statistiques de 2008-2009 de l'UNESCO, la RDC compte près de 18 millions d'analphabètes, soit environ un quart de la population. Et sur ces trois quarts de la population, il y a 4 femmes pour un seul homme. Situation inquiétante lorsqu'il est estimé que l'analphabétisme représente un danger public. Les questions, quelle est la situation chez vous? Que faire pour lutter contre l'analphabétisme? Notre invité est Albert Banzadio, il est directeur chargé de programmes d'alphabétisation et éducation non formelle, une direction du ministère des Affaires sociales. Pierrot et la Meiji, Nicole Ngaka, sont à la réalisation de cette émission. Sylvain Matunga est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs. Par internet, ch@radiookapi.net.
Bonjour, monsieur Albert Banzadio.
Bonjour madame.
Comme je viens de le dire, vous êtes directeur chargé de programme d'alphabétisation, éducation non formelle, une direction du ministère des Affaires sociales. Nous aurons presque 1h15 pour pouvoir échanger avec les auditeurs sur cette question d'alphabétisation. Nous avons des chiffres assez inquiétants. On parle de 18 millions d'analphabètes en RDC. C'est environ le quart de la population congolaise, avec trois quarts d'analphabètes, ce sont pour la plupart, il y a 4 femmes pour un seul homme. Des chiffres assez inquiétants. On parle d'une question de danger public. Pourquoi danger public?
Puisque dans un pays où il y a beaucoup d'analphabètes, où beaucoup de gens ne savent pas lire ni écrire, ça pose un problème donc, pour le développement de notre pays. Raison pour laquelle le ministère des Affaires sociales, à travers la Direction générale d'éducation non formelle, qui a été créée récemment en décembre 2006, cette direction a une mission pour lutter contre l'analphabétisme dans notre pays.
Mmh. Oui, aussi, on peut revenir sur qui est un analphabète, parce que souvent, il y a des définitions assez controversées. Certains pensent qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne parle pas français, ou bien qui n'utilise pas l'alphabet qu'on connaît, ou les chiffres romains. Expliquez-nous, en bref, qu'est-ce qu'un analphabète?
Un analphabète, puisqu'il y a beaucoup de définitions à travers le monde, mais ce que nous utilisons pratiquement ici en RDC, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas ni lire, ni écrire, ou faire des petits calculs.
En n'importe quelle langue. Parce que si on peut parler, si on peut lire le lingala, et pas le français, est-ce qu'on peut dire que c'est un analphabète?
Non, si quelqu'un sait déjà lire français par exemple, ou lire le lingala, ou soit élu, du Luba, du Congo, c'est quelqu'un qui est déjà alphabétisé. Puisque l'alphabétisation en soi, c'est assez facile dans les langues du milieu, donc, langue du milieu où évolue la personne.
Donc ce n'est pas une question d'avoir une maîtrise du français, c'est une question de langue tout simplement.
C'est une question de langue, puisque le français c'est une langue officielle. Et par rapport, je ne sais pas enjamber ce que je devais dire avant, par rapport dans d'autres pays comme Burkina, ils enseignent les Djoula, tout ça, dans ces langues nationales. Et puis, quand vous voyez au niveau du Burkina, dans tous les ministères, on écrit en français et puis on écrit dans les trois langues officielles qui sont là.
Oui, nous allons écouter nos auditeurs ce qu'ils pensent de ces journées, surtout comment mettre fin à ce fléau ici qu'on connaît en RDC. Mais avant d'y aller, le pourcentage de la RDC, on a eu des chiffres 18 millions d'analphabètes, mais sur le concernant les provinces, quelles sont les provinces qui sont les plus touchées?
Les provinces qui sont les plus touchées, ce sont les provinces où il y a eu des actes de guerre. Comme à l'Est, il y a un grand nombre d'analphabètes. Et puis, par rapport aussi à l'Équateur aussi, donc il y a beaucoup d'analphabètes. Et c'est dit aussi, ce n'est pas simplement les guerres, il y a aussi ce que nous avons comme activité sur terrain. Par exemple, à l'Équateur, au moment où il y a des pêches, les enfants vont à la pêche. Donc, au moment où il y a des fois aussi au niveau de Mbujimaï, dans des zones minières. Beaucoup d'enfants ne quittent pas, ils sont dans des mines pour chercher de l'argent. Et puis, il y a aussi une autre population, comme une population autochtone, les Pygmées. Donc, il y en a tant d'autres.
Donc, ce sont des endroits où l'éducation formelle ou non formelle n'ont pas pu pénétrer correctement.
C'est pénétré, mais ce n'est pas tellement accentué. Donc, nous devons faire beaucoup d'efforts. Pour arriver à ça.
Nous allons écouter nos auditeurs, savoir leur avis, ce qu'ils pensent de ce sujet.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Abby.
Bonjour, madame Marie-Chantal, et bonjour à mes soldats.
Bon, vous ne changez pas, vous êtes ravis, vous ne changez pas. Vous êtes ici à partir de Kinshasa. Dites-nous, Abby, ici, dans votre milieu, quelle est la situation de l'anarchie?
Comment Marie-Chantal, d'abord je commence d'abord par féliciter la radio Capri pour les prix des rewards que vous venez d'obtenir.
Merci.
Oui. Mais contenant la situation ici à Kinshasa, vraiment, c'est aussi c'est vraiment pas bien. Parce qu'il dit, les directeurs chargés de programme viennent de dire qu'à l'est là-bas, il y a des problèmes de cœur, il y a ceci, cela. Mais ici, à Kinshasa, où l'éducation est vraiment intégrée, nous avons aussi un problème de suivi. C'est une responsabilité des parents qui rend aussi ces cas de l'alphabétisation. Pour en parler, madame, il y a M. Albert qui vient de parler de guerre, de budget, de bon format. Mais à part cela, il y a un problème de notre gouvernement. Imaginez-vous dans des centres d'alphabétisation qui n'est même pas du gouvernement, des ONG, on retrouve que il y a plus de grandes personnes, des personnes âgées. Et ces personnes-là ont commencé à vivre avant même la Troisième République. Comment vous allez allouer les budgets aujourd'hui? Donc, c'est quelque chose qui date de longtemps, ça c'est assez difficile.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre cette situation?
À mon avis, je demanderai à ce monsieur qui est président, M. Albert, vraiment de plus, beaucoup plus subventionner ces ONG. Parce que nulle part ailleurs, nous avons appris qu'il y a un centre de l'État où on apprend gratuitement. Mais et au moins qui ont cette volonté, c'est donner les moyens.
Et donc il y a des centres gratuits où les personnes, les adultes comme les enfants à l'alphabet peuvent apprendre à lire et à écrire. Merci, Rabi. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Steve.
Et bonjour, c'est Steve.
C'est Steve, hein. Si vous êtes à Bounia, on a l'impression que notre liaison n'est pas très bonne, hein, mais on va quand même essayer. Si ça ne marche pas, on pourra vous rappeler plus tard. Steve, on vous écoute.
Oh, oui. Donc, j'aimerais tellement dire que chez vous, les gens vont m'envoyer par rapport, parce qu'il n'y a pas un délire trop d'alphabet chez vous. Mais le problème que je vois, c'est que, comme le tremblement du terrain, c'est le problème de l'ordre du gouvernement. Parce que nous, ça vaut quand même combien, le budget, donc combien ça loué pour les grands de ces institutions. Et si le fait de finir à Bing, on avait fait une recherche, on avait essayé de demander à la population quel est le rôle de l'équité, demander à la population. Moi, je trouvais que beaucoup de la population ne savent même pas le rôle de l'équité. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont ils ne connaissent rien de la démocratie. Et ça, c'est un problème très majeur. Et nous avons compris que le gouvernement, nos autorités, apprennent vers que la population qui serait analphabète pour le manipuler, pour venir faire des choses qui n'existe pas, parce que la population n'est pas à mes yeux, ne sont même pas les messieurs de la démocratie. C'est ça le problème.
Oui, Steve, une préoccupation, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'analphabétisme et le manque d'informations politiques ou civiques?
Non. Oui, celui qui est alphabète, c'est difficile pour lui de comprendre même comment ça fonctionne, comme ils ne peuvent pas lire même des journaux, et les fois peut-être aussi c'est difficile pour lui de lire des journaux à soi libre, de s'informer, pour lui c'est difficile. Et c'est ça le problème, et ça c'est normal. Et moi la question que j'ai aussi demandé à notre invité, parce que j'étais avec au ministère de la Santé sociale, quel programme a-t-il, quel est le programme que le ministre de la Santé sociale a essayé de mettre sur pied pour combattre l'analphabétisation.
Vous êtes tombé comme moi. Donc, connaître le programme pour lutter contre l'analphabétisme, mais aussi créer des centres, ainsi de suite, et penser que le fait qu'une personne soit analphabète, ça permet de pouvoir le manipuler. Merci, Steve, pour votre intervention. Nous allons à Kenanga, c'est pour Norbert. Bonjour, Norbert.
Bonjour, Marie-Chantal Lumba, c'est Jibril Aïdorbert de Kananga. Merci à tous les auditeurs de la radio Papi et bonjour à l'invité. Je veux juste poser la question à l'invité. Avant de poser la question, je veux toujours d'abord répondre à la question qui a été posée, celle de savoir comment lutter contre l'analphabétisme. En tout cas, madame, c'est déplorable dans notre pays. Bon, vous imaginez un peu une maman qui a 50 ans. Mais il ne sait pas lire. Et moi, je trouve aussi que c'est le problème de la possibilité. Mais si les parents manquent les moyens pour enseigner leurs enfants, mais vous verrez que les parents et les enfants aussi seront toujours des alphabètes. Mais là, pour lutter, en tout cas, je demande, il faut qu'il y ait au moins des centres d'alphabétisation. Ces centres pourront donc aider à celui qui est alphabète d'avoir une formation qui est accélérée. En tout cas, madame, je ne suis pas l'exemple des témoins de Jéhovah. Je ne fais pas la publicité des témoins de Jéhovah. Mais quand on constate que les témoins de Jéhovah, il y a une formation qui est très accélérée. Donc, on vous forme, on vous apprend à lire et à écrire correctement. En tout cas, si on suit l'exemple des témoins de Jéhovah, il y a des centres. Il y avait un centre ici à Canada, mais malheureusement, le centre ne fonctionne pas encore. Il y a eu un peu de problème. Mais à part le centre, s'il y a aussi un centre qui est quelque part en Gaza ici, mais je vous dis bien, les centres, avant d'être là-bas, il faut les inscrire, comme si vous êtes élève. Mais le parent se demande, mais moi je suis un alphabète, qu'est-ce que je peux faire? Il faut, mais je sais que je peux donner me faire inscrire, mais n'est-ce pas que cet argent-là peut me aller pour aller acheter les aliments pour mes enfants? Mais là, les parents se découragent. Mais là, vous vous imaginez un peu, c'est le problème aussi des responsables des centres. Pour aller se faire inscrire, il faut $10. Or, il faut donner l'argent. Les parents se découragent pour bien. Non seulement les enfants, mais aussi les parents.
Merci Norbert pour votre intervention. Je pense qu'il faut encourager les personnes, surtout les adultes, qui ne se sentent pas gênés d'aller apprendre. Cela pourra leur permettre de pouvoir quitter cette situation d'analphabète, mais aussi vous souhaitez qu'il y ait une forte implication pour qu'on puisse soutenir ces centres, que cela soit à la portée de tout le monde, à toutes les bourses. Merci Norbert. Bonjour Joël.
Marie-Chantal.
Vous êtes le dernier intervenant pour cette première série.
Merci, madame, moi, je pense qu'il faut mettre fin à l'alphabétisme. Je pense qu'il faudra que l'instruction soit un peu partout. Nous remarquons que seulement dans les milieux urbains où nous trouvons les écoles qui sont comme des champions chaque année. Mais dans les milieux ruraux, ce n'est pas le cas. Et je sais justement que l'instruction ça en fait partout et nous demandons aux organismes, ou soit aux personnes qui ont appris les initiatives pour créer des écoles dans les toutes prochaines années, d'aller les planter dans ces milieux récréatifs pour relever ces défis. Et aux organismes non gouvernementaux, de penser aussi au centre en créant ou soit des orphelinats pour encadrer ces jeunes qui traînent sur les rues dans les carrières en vue d'attirer leur encadrement. Aussi, d'organiser un enseignement de rattrapage, quel que soit l'âge de ces derniers, en vue d'attirer une certaine moralité pour ce qui est vraiment la société. Et aussi d'éviter les mariages précoces qui contribuent à la délinquance et devenir madame.
Bon, moi, je vous pensez qu'une personne qui se marie précocement, cela ne peut pas lui permettre de pouvoir aller s'instruire ou apprendre à lire ou à écrire.
Certainement, madame, parce que je prends l'exemple des milieux ruraux. C'est-à-dire, dès que la jeune fille atteint l'âge vert, déjà, elle est prête. En fait, déjà, les parents l'exposent, l'expédient déjà à un mariage.
Précoce. Oui, alors là, ça ne permet pas à la femme de pouvoir continuer à apprendre à lire, à écrire. Donc, elle laisse tout tomber, elle s'occupe de son foyer, de son ménage. Et il n'y a plus de temps. C'est un peu ça, votre façon de voir les choses, Joël.
Pour organiser la maison, par exemple, et surtout que l'éducation de base se donne d'abord à la maison.
À la maison.
Je pense qu'elle doit avoir quand même certaines notions bien avant le mariage, madame.
Merci, Joël, pour votre intervention. À partir du Katanga, précisément à Likasi, nous allons à Kindu. Bonjour, Augustin.
Bonjour madame.
Augustin, on vous écoute. Comment ça se passe chez vous à Kindu?
Oui, merci madame. À ce que je veux vous dire, pour les jeunes filles, on doit leur savoir que le mariage c'est un consentement personnel. Ça ne doit pas être une histoire forcée ou involontaire de la part de la mineure. Parce que quand je parle de la mineure, les femmes constatent que certaines filles, lorsqu'elles sont toujours dans la majorité, mais le parent propose à ce que cette mineure soit mariée. Or, nous savons que les études, c'est d'abord une condition économique pour qu'une personne puisse quand même être utile à la société, madame.
Donc, et à Kindu, quelle est la situation d'analphabétisme?
Oui, nous avons vraiment un nombre élevé d'analphabétisme. Et cela est dit par rapport aux moyens. Les gens souffrent, madame. Le revenu mensuel est très inférieur, même à 0,1 point dollar, madame. Et souvent, je viens de voir, il y a une innovation. Il y a beaucoup d'écoles privées qui ont été créées. Bon, je ne sais pas si c'est dans le cadre, si c'est dans la mission de la vraie éducation, c'est bien. Si c'est dans le cadre de faire le commerce, je serais désolé parce que les promoteurs des écoles, si ils se mettent là pour faire le commerce, les écoles qu'ils ont créées, ça sera vraiment impitoyable. Mais si ils ont d'avance une idée pour former des futurs cadres, pour former des enfants, c'est parce que c'est vraiment bénéficiaire pour nous déjà d'humainement, parce que vraiment, il y a au moins 40% des cours privés qui ont été créés cette année par rapport aux autres années, madame.
Merci, Augustin, de votre intervention. Nous allons poursuivre cette émission qui est consacrée à la journée internationale d'alphabétisme. Et cette journée, aujourd'hui, c'est le 8 septembre, une journée en fait qui permet de pouvoir en parler et de voir quels sont les enjeux de l'alphabétisation dans un pays en voie de développement.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio où nous avons notre invité, M. Albert Loubanzadio. Je rappelle que vous êtes chargé de programme d'alphabétisation et éducation non formelle, une direction du ministère des Affaires sociales. Vous avez suivi cette première série d'auditeurs. Ils reviennent, ils ont des propositions. Ils veulent savoir que fait votre direction, que fait ce programme sur terrain face à toute la situation que nous avons constaté dans la plupart de ces provinces.
Oui, merci madame pour la parole. La direction générale d'éducation non formelle, en soi, il a des programmes qu'on avait élaborés au niveau de la direction. Nous avons les programmes de rattrapage scolaire qu'on avait élaboré avec l'aide des UNICEF en 1999-2000. Les programmes de terrain où beaucoup de nos amis des ONG ou des confessions religieuses et puis des publics.
Donc vous avez des centres, vous soutenez des centres ou bien comment ça se passe sur le terrain?
Sur terrain, nous avons, nous-mêmes, l'État, nous avons quelques centres.
Dans chaque province.
Dans chaque province.
Il y a au moins un centre.
Il y a un centre. Et puis, il y a aussi les centres de confession religieuse, aussi sur terrain, donc nous les encourageons. Et puis, nous avons les centres de zones qui sont sur terrain, donc qui font des activités de rattrapage scolaire. En soi, c'est, ils récupèrent les enfants déscolarisés, de l'âge de 9 à 11 ans. À l'issue, donc à la finalité, donc les programmes durent au moins 3 ans. Nous avons le niveau 1 qui équivaut à premier primaire, deuxième primaire. Le niveau 2 qui équivaut à troisième, quatrième primaire. Le niveau 3 qui équivaut à cinquième et sixième primaire. Donc.
Et dans vos centres, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on doit payer quelque chose? Parce qu'il y a un auditeur qui s'est plaint, qui se dit que ça coûte des fois un peu cher, surtout lorsque ce sont des centres privés. Est-ce que vous avez un regard sur les privés? Et dans vos centres, est-ce que c'est gratuit?
Nous avons un regard dans les privés, mais le problème qui est ici, c'est nous sommes butés à une difficulté. Hier, j'avais relevé ça. Il y a les difficultés des budgets qu'on a. Et puis, dans nos centres-là, on paye pas tellement comme l'école primaire et secondaire, donc on paye un montant là pour soutenir les enseignants qui donnent cours dans ces centres.
Maintenant que la scolarisation, l'été scolaire, maintenant c'est gratuit, est-ce que vos centres aussi, cela sera s'étendre dans vos centres ou bien ils seront obligés toujours de payer?
Donc, en soi, le rattrapage scolaire c'est gratuit. Donc, c'est gratuit. Ce qu'il paye
la constitution reconnaît cela, que c'est gratuit.
C'est gratuit. Ce qu'il paye là, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on devrait payer. Donc, pratiquement, c'est gratuit.
C'est gratuit. Et aussi, notre préoccupation, les centres de rattrapage pour les adultes. Parce qu'il y a un auditeur qui pense qu'il y a des personnes qui sont un peu découragées, vu leur âge, de se rendre dans un centre d'alphabétisation.
Oui, pour les adultes, puisque nous avons commencé avec les centres de rattrapage scolaire pour les enfants, de 9 à 11 ans, et pour l'instant, nous sommes en train d'amorcer un programme pour les adultes. Donc, il y a aussi des activités sur terrain qui se manifestent avec les prêtres catholiques qui sont en train de faire quelque chose sur terrain par rapport aux adultes. Donc, récupérer les adultes, et puis à un certain moment, ils passent les preuves d'examen d'État. Puisque nous avons quelques centres, deux ou trois centres déjà, qui ont fait preuve à ça. C'est la deuxième année, et puis ces mamans ou ces papas, ils font l'examen d'État, ils réussissent. Et maintenant, les ministères, maintenant, nous devons asseoir ces programmes comme nous avons pu asseoir les programmes de rattrapage scolaire.
Donc, il faut maintenant qu'il y ait un autre programme qui soit un peu plus renforcé pour aider les personnes qui ont envie de se rattraper.
Oui, le programme est en vie.
Le programme est en vie. Nous allons écouter d'autres auditeurs qui ont envie de s'exprimer à ce propos. Nous avons Eric Alboumbachi, Hubert Bukavu et Juvenal Mbujimane.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Eric.
Bonjour Madame Richard, bonjour notre invité.
Vous êtes à Lubumbashi, quelle est la situation chez vous?
Oui Madame, ici la situation est vraiment déplorable. Et ici à Lubumbashi, il y a beaucoup, surtout la cible principale, ce sont les femmes.
Mm-hmm.
Ce sont les femmes. Alors, moi je pense que pour lutter contre
l'analphabétisation, voilà.
L'analphabétisation. Je pense qu'il serait mieux que le parent, c'est dès maintenant que nous devons lutter contre l'analphabétisation.
Mais...
parce que quand ici à Lubumbashi, les études coûtent cher, sur tous les niveaux, que ce soit au niveau maternel ou au niveau universitaire, les études coûtent énormément cher. Alors, je salue d'abord la décision des chefs de l'État de pouvoir faciliter la gratuité des études primaires. Parce que les analphabètes que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui ont raté hier la scolarisation. Alors, quand on facilite déjà la scolarité des enfants aujourd'hui, donc nous aurons plus des cadres intellectuels dans le futur. Et aussi, dans une famille, quand il y a un garçon et une fille, s'il faudra scolariser un enfant, on privilégie toujours les garçons. Apparemment, les filles sont abandonnées à leurs professeurs. Et cela joue sur la psychologie. Il y a aussi un autre facteur, les parents qui donnent le goût de l'argent à leurs enfants pendant que l'enfant est encore élève, pendant la période des vacances, par exemple. Mais les parents qui donnent les enfants des travaux, par exemple, de faire des petits commerces. Et il y a certains enfants qui parviennent à avoir beaucoup plus le goût de l'argent et ils perdent l'envie d'étudier. Mmh. Et des choses pareilles ont des conséquences plus tard à l'avenir.
Merci Eric pour votre intervention. Vous êtes à Lubumbashi. Nous allons à Bukavu, se trouve Hubert. Bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal. Oui,
Hubert, on vous écoute. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes à Lubumbashi?
Bon, le même problème, je ne sais pas dire ça, mais ici, il y a un problème très spécifique.
Oui.
Chez nous, à Bukavu, les gens étudient. Mais ce qui est étonne, c'est que ceux qui ont étudié, donc ceux qui sont attristés, ceux qui sont lettrés, ils ont une vie qui est vraiment qu'on ne peut pas envier. Mm-hmm. Alors qu'ailleurs, quand on est lettré, on a la clé du développement.
De la réussite.
La majorité de la population, qui sont bien assis, qui sont des gens qui sont sous-lettrés ou bien illettrés. Alors, on se demande, est-ce que il faut continuer? Bon, c'est bon, il faut utiliser les gens, mais c'est mieux de les attribuer et de les occuper, donc de les donner des emplois. Et moi, je pense que ce n'est pas comme une machine.
Donc, Hubert, vous avez constaté qu'il y a une situation que vous trouvez pas du tout normale, hein, parce que vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont analphabètes, qui s'en sortent mieux dans la vie que ceux qui sont lettrés. Alors, cela, on n'a pas assez de motivation, on ne voit pas les raisons pour lesquelles on devrait faire un effort pour sortir de son analphabétisme.
Justement, mais vous savez, madame, quand on étudie, c'est pour qu'on devienne quelqu'un un jour, qu'on ait de l'emploi, qu'on soit occupé. Mais c'est étonnant, c'est vrai que même les professeurs d'université, quand ils ont étudié, ils se tendaient à devenir peut-être un jour avoir des bons emplois dans leur travail. Mais ce qui est au cœur, les sous-traitants qui ont de l'argent, quand ils sont en train de boire quelque part, quand ils l'envoient, ils disent un dialecte. Je viens de l'envoyer de licenciés. Parce qu'il a continué à dire qu'il coûte plus cher que le salaire d'un licencié.
Ça fait mal au cœur. Merci Hubert d'être intervenu à parole aux auditeurs sur tout ce témoignage qui est assez profond. Donc, il n'y a plus de motivation pour pouvoir sortir de son alphabétisme face aux réalités que vous rencontrez sur terrain. Nous vous remercions. Nous allons Boujima et bonjour Juvenal.
Bonjour madame.
Juvenal, on vous écoute.
Voilà ma préoccupation. Analphabète par rapport à quoi? Ça fait un de deux. Le rôle de l'État pour arriver à parler aujourd'hui de l'analphabétisme, c'est quoi? Si nous devons apprécier le budget alloué à l'enseignement par le gouvernement, cela ne justifie pas le souci d'éradiquer l'analphabétisme. Je vous ramène dans la constitution de notre pays, à l'article 43 et 44. D'ailleurs, j'ai la constitution dans mes mains.
S'il vous plaît, Juvenal, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous parce qu'il y a un retour assez désagréable?
Mais je crois que c'est très loin.
Il y a un bruit de retour, nous on entend. Allez. Si c'est possible de carrément l'éteindre.
Ça va maintenant?
Oui, c'est mieux, on vous écoute.
Alors, je peux recommencer parce que.
Nous pouvons revenir déjà aux dispositions de la Constitution que vous voulez
citer. Répondons à l'article 43 et 44 de notre Constitution. Il est dit à l'article 43. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. Là, c'est peu, très important. Mais l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Ça, c'est une théorie. Mais la praticabilité de cette théorie, l'analphabétisme.
Mais néanmoins, vous savez, je viens quand même, vous savez qu'on a lancé la gratuité pour cette année 2010-2011, c'est la première étape, donc nous n'allons pas revenir dessus. Passons directement, si c'est possible, à vos propositions pour pouvoir
lutter contre l'analphabétisme. Madame.
Oui.
Mais de toute façon, nous devons nous contrôler, nous, Congolais. Si on venait de lancer cet esprit d'enseignement gratuit, mais c'était consigné dans la Constitution, il devait être appliqué dès le jour où la Constitution était adoptée. Alors, à l'article 44, l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Voilà maintenant ma préoccupation. Le gouvernement national peut-il arriver à nous présenter un programme spécifique en ce qui concerne l'analphabétisme? Parce que sur le plateau, il y a un directeur qui est attaché au ministère des Affaires sociales. D'où l'État est à la base de l'analphabétisme. Voilà ma proposition, madame, pour terminer. L'État doit s'indiquer. Il doit trouver à suffisance un pourcentage alloué à l'enseignement. Alors, cette fois-là, on comprend bien que l'État se donne le luxe d'éradiquer l'analphabétisme. De deux, quel est le salaire des travailleurs ici au Congo? Est-ce que ça peut permettre à un parent d'encadrer tous ses 10 enfants parce qu'il a surtout investi dans la progéniture? Ça, c'est ma deuxième préoccupation qui accuse encore l'État. Et ma toute dernière préoccupation, l'enseignant qui devait se soucier pour donner de la matière et encadrer nos enfants très bien, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est mal traité, il n'a pas de salaire. Voyez-vous, madame?
Oui, merci, Juvenal. On a compris toute votre préoccupation. Vous pensez qu'il faudrait un salaire motivé pour ceux qui encadrent. Il faudrait que l'État donne alloue assez de l'argent ou des fonds pour l'éducation. Et vous avez cité aussi des articles de la Constitution qui reconnaissent que il faudrait mettre tout en œuvre pour lutter contre l'analphabétisme. Voilà, merci Juvenal pour votre intervention de Mbujimayi. Nous allons à Matadi. Bonjour Simon.
Bonjour pour madame la journaliste.
Oui Simon, on vous écoute.
Oui, en fait, je suis le secrétaire provincial du SINECAT, Syndicat National des Enseignants des Écoles Conventionnelles Catholiques ici au Bas-Congo. J'ai fait la ronde des 10 territoires que compose la province pendant les grandes vacances. En tout cas, ce sujet d'aujourd'hui, je voulais même en parler, écrire, dire ça au comité, puis écrire au ministre et tout ça. Nous, au Bas-Congo, je vous assure, l'analphabétisation est en bonne santé, surtout dans les villages, les recoins. C'est terrible, madame. J'ai constaté peut-être plusieurs raisons qui sont dites à cela. D'abord, dans des villages, il y a le problème de la cartographie. Donc, en pédagogie, quand on dit cartographie, ça veut dire la situation d'une école par rapport au village. De plus en plus, dans les villages, les écoles se dessèchent des enseignants. Donc, parfois, ceux qui ont la volonté d'enseigner, on peut les trouver que 10, 8, mais ils se trouvent dans un village très éloigné, d'où les enfants qui sont dans tel ou tel autre village sont appelés d'aller dans ces villages-là. Vous voyez, les petits de l'école primaire, première, deuxième, n'ont pas vraiment le temps d'y arriver. Alors ça devient un blocage de ces faits. Et puis, un autre aspect, dans les villages surtout, il y a un désintéressement total des enseignants. Et ceci étant, les enseignants ne sont pas des modèles. Et ceux qui n'ont pas étudié, qui se débrouillent avec des champs, avec des petits commerces, semblent avoir plus d'avance sur le plan matériel qu'un enseignant. J'ai trouvé des enseignants qui vont à l'école avec des babouches attachées au fil des bananiers. Et celui qui n'a pas étudié, qui voit ça, il lui dit, voilà, c'est lui qui a étudié ce qui. Donc c'est une démotivation totale. Et ça ne pousse pas, ça ne crée pas. Un grand souci à celui-là qui regarde cet enseignant, qui du moins a accepté d'enseigner, être dans cet état. Donc ça a l'air de motiver. Et puis encore, il y a les problèmes des unités pédagogiques qui sont en place, où les gens qui ont étudié, qui vont dans les villages, qui font les mêmes commerces, acheter du foufou, comme celui qui n'a pas étudié, qui va vendre du foufou, à tout cas, il se voit être égal. Il n'y a pas un esprit d'émulation qui pouvait pousser aux villageois des régions de ce parce qu'ils disent, ah, même ceux qui ont étudié, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai roulé, c'est moi qui l'ai refait. Moi, je crois qu'il va falloir que le gouvernement congolais puisse payer ce qu'on appelle la prime de la brousse pour motiver les enseignants qui sont dans les villages et qui sont forfaités. Actuellement, avec le système qu'utilise le gouvernement de la République démocratique du Congo, et d'ajouter toujours quelque chose aux enseignants de Kinshasa, cela crée un exode de cerveau vers les centres urbains où on paye un peu bien, ou vers la ville de Kinshasa. Donc il faut instaurer le système de prime de brousse. Il faut que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse doter des moyens conséquents aux 5 principaux ministères ayant en charge de l'enseignement. Excusez-moi. Le ministère, par exemple, de l'EPST, le ministère de l'issue de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère des Affaires sociales ayant en charge l'éducation informelle, le ministère de la Santé qui a la charge de pouvoir former les infirmiers au niveau secondaire, le ministère de la Jeunesse qui est responsable de la formation professionnelle des jeunes. Il va falloir qu'on leur puisse doter un budget conséquent afin qu'ils puissent aider cette nation. La force d'une nation, ce n'est pas dans les richesses, les mines et consorts, mines, diamants, la terre fertile. Non. La richesse véritable d'un pays réside sur la formation que le pays donne à 16 ans. Et aujourd'hui, je vous dis, même, je suis très content qu'on a commencé à appliquer, compte tenu des moyens, la gratuité telle que le Sénécat l'a réclamé pendant longtemps, à l'école primaire. Ça, en tout cas, nous saluons et nous disons félicitations au président, félicitations au ministre Makere Mwangu. Mais qu'on donne plus de moyens au ministre Makere Mwangu pour qu'il fasse l'élément état politique. En République démocratique du Congo, 80% de budget est consacré aux charges politiques. Qu'on donne à Makere Mwangu, qu'on donne au ministère des Affaires sociales, de l'ICI, de la Santé, et ministère de la Jeunesse, qu'on leur donne des moyens nécessaires pour faire la politique.
Merci. Simon, un dernier point peut-être pour conclure, parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui veulent intervenir. En conclusion, qu'est-ce que vous dites, Simon?
Oui, j'ai dit qu'on puisse donner des moyens conséquents à ces 5 ministères qui ont en charge l'enseignement. Et puis qu'on essaie un peu d'arranger les problèmes des enseignants, parce que avec toutes ces grèves ici motivent aussi les gens pour ne pas aller à l'école.
Oui.
Telle que la synergie des enseignants du Congo qui a lancé le mot de grève, qui est respecté au bas Congo au moins à 95%. Ça devient aussi un blocage pour ceux qui voulaient du moins aller à l'école.
Merci Simon pour votre intervention assez musclée. Hein. Là, vous avez souhaité qu'on puisse un peu montrer à la face du monde, avec des moyens conséquents, les atouts de ne pas être un alphabète, mais aussi voir dans quelle mesure motiver, aussi rapprocher les élèves des écoles. Donc, ainsi de suite, autant de propositions que vous avez faites. Nous allons aussi écouter Della. C'est Della, il est à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour Marie Chantal.
Vous avez suivi quand même l'intervention de Simon. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à ajouter?
Oui, j'ai quelque chose à ajouter. D'abord, par avant de l'analphabétisation, la statistique qu'on a donnée de 18 millions. Pour assurer la définition qu'on a donnée, qu'un alphabète, c'est celui qui ne connaît ni écrit, ni lire, ni même calculer. Alors, ma question est la suivante. Si quel indicateur se sont basés pour trouver ce chiffre-là à la marque de 18 millions dans notre pays?
Mm-hmm.
C'est ça ma préoccupation.
Vous avez une seconde question?
Oui, la deuxième est la suivante. Bon. Parmi les causes, disons, vous avez demandé les progrès qui les plus touchés. Bon, et là, c'est une cause de consultation des carrés de mine. Alors, c'est là aussi, ça me préoccupe beaucoup. Puisque je voulais parler un peu de la situation du territoire de Bassafène, là où il y a les diamants. Cette consultation des carrés de mine de diamants, c'est que il y a beaucoup d'alphabètes dans le territoire de Bafoufoune. Alors, quant à moi, j'ai voulu donner des propositions que le gouvernement puisse décourager cette exploitation artisanale, quand même si on pouvait adopter l'exploitation semi-industrielle, ça serait mieux pour que les enfants puissent aller à l'école. Et je remercie aussi la décision du ministre pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et primaire pour les enfants de 3e, puisque l'école primaire c'est la base même de l'éducation.
Merci. Merci Della pour votre intervention de Taki Sangani. Vous êtes revenu encore une fois sur les devoirs du gouvernement face à ce fléau. Nous prenons Docteur Florentin de Kananga. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Docteur Florentin, on vous écoute. Quelles sont vos propositions à vous pour pouvoir lutter contre l'analphabétisme?
Oui, avant de pouvoir poser quelque chose, moi, je pense qu'actuellement, la définition de l'interprétisme est élargie.
S'il vous plaît, docteur Florentin, est-ce que vous pouvez un peu vous déplacer pour peut-être que la qualité
soit meilleure? Oui, mon téléphone était à main libre, je pense que c'est
pas assez raisonnable. Oui, maintenant, c'est mieux, on vous entend.
Oui, je disais qu'actuellement, la définition de l'interprétisme peut être élargie à jusqu'au niveau de la maîtrise de l'anglais et de l'informatique, parce que vous remarquerez vous-même que beaucoup d'offres, dans les critères d'offres actuellement, on demande aussi d'avoir maîtrisé l'anglais et l'informatique. On dit que c'est là qui situe un atout majeur.
Donc, alors, oui, vous pouvez continuer. Oui.
Si on revient maintenant à ce qui est vulgaire, ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, je dirais que la situation ici à Kananga est aussi observée surtout chez les dames. vous remarquerez les femmes qui, quand vous leur posez des questions aussi très simples sur leur identité, leur date de naissance, leur à connaissance de leur cycle, ça constitue encore un problème. Et ça, je pense que c'est lié à leur niveau d'instruction. Parce que pour une dame qui est instruite, elle ne peut pas ignorer cela.
Merci. Donc, vous pensez qu'il faudrait faire beaucoup plus d'efforts, déployer beaucoup d'efforts pour les femmes. D'ailleurs, le thème même de cette année pour la Journée internationale d'alphabétisation, c'est le pouvoir de l'alphabétisation des femmes. Donc, c'est un accent assez particulier pour les femmes. Et vous, vous dites que c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a des petites questions assez faciles, des questions banales que les femmes n'arrivent toujours pas. À donner des réponses.
Alors, comme proposition, les moyens pour trouver des solutions à cela, moi je pense qu'il faut agir à deux niveaux. D'abord, à la base, c'est-à-dire pour les enfants d'âge préscolaire, et c'est ça ce qui est en train de se faire, on en croit toujours, on dit filles et garçons à l'école. Et c'est ça ce qui est déjà fait au niveau des ministères et qui salue déjà leurs actions au niveau des enseignements primaires et secondaires, et même au niveau des organismes tels que l'UNICEF, l'UNESCO. Et ça, c'est vraiment encouragé. Et pour d'autres écoles, les écoles privées en particulier, où les milieux urbains continuent à se payer, je pense qu'il faut quand même limiter les coûts. Parce qu'il faut dire que le niveau de vie des gens au Congo demeure encore très bas. Et si vous mettez les seuils à un niveau très élevé, les gens ne seront pas envoyés leurs enfants à l'école.
Merci.
Il faudra quand même rabaisser les prix des études.
Merci beaucoup pour votre intervention à cette émission consacrée à la Journée internationale de l'alphabétisation.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Albert Lubanzadio,
oui.
Suivi cette deuxième série d'auditeurs, ils reviennent sur tous les problèmes qu'ils rencontrent, les réalités sur terrain. Dites-nous un peu, vous êtes chargé en fait de ce programme d'alphabétisation, éducation non formelle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le sens où des auditeurs pensent que l'image des personnes lettrées, des personnes alphabétisées n'est pas assez bon, il faudrait qu'on change, il n'y a plus de motivation. Qu'est-ce que vous faites dans votre service pour pouvoir montrer les atouts des personnes qui ne sont pas analphabètes dans le pays?
Donc, nous au ministère, nous sommes en train de travailler surtout aux hommes lettrés, donc les enfants que nous encadrons au niveau du ministère, qui terminent leur cycle à notre niveau, et ils sont orientés automatiquement dans des centres d'apprentissage professionnel donc pour apprendre un métier. Et puis, après avoir appris les métiers, souvent, sont financés par des organismes, on les dote avec des kits donc pour créer de l'emploi. On sait que dans notre pays, le problème d'emploi, ça pose problème. Mais là, nous devons penser comment les enfants que nous formons, ou les adultes, pour créer de l'emploi, de se prendre en charge. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, de lutter pour ça maintenant.
Pour donner une autre image.
Une autre image, oui.
Qu'on sache qu'une personne qui sait lire, écrire, calculer, a un plus que celui qui ne sait pas.
Tout à fait.
Parce que là, on a eu des témoignages assez qui ont démontré que la situation est un peu inversée. Mais il y a aussi votre programme. Quel est votre programme, en fait? Parce qu'il y a notre auditeur qui voudrait savoir quel est ce programme.
Le programme de...
Du gouvernement, la politique de votre direction à vue afin de pouvoir lutter contre cet analphabétisme.
Le programme du gouvernement, pour le moment, nous sommes en train de... Nous voulons maintenant élaborer la politique nationale qui doit maintenant orienter toutes les activités qu'on a dans le ministère des Affaires sociales. Donc, nous sommes en train d'amorcer la politique nationale d'alphabétisation et l'éducation non formée en RDC. Cette politique est appuyée par notre partenaire potentiel qui est la Banque mondiale. Donc, bientôt, il y a une équipe, son excellence, c'est le ministre Macaire, c'est le ministre Kambéré, il a pris l'arrêté, cet arrêté-là, désire des membres qui doivent élaborer la politique. Dès que nous aurons notre politique nationale sur le terrain, nous verrons comment nous pouvons vraiment s'asseoir sur les activités de l'ANF en RDC.
Il y a d'autres réalités, le fait d'être analphabète, ce n'est pas seulement, comme l'a dit un auditeur, ce n'est pas seulement ne pas savoir lire et écrire, mais aussi cette réalité, apprendre l'anglais et l'informatique. Est-ce que il y a des formations, des modules par rapport à cela?
Par rapport à ça, il y a des centres de français et d'anglais, qui foisonnent par-ci par-là à travers les pays où nous sommes en train de les encadrer. Donc, quand vous êtes apprendre l'outil informatique, vous êtes en alphabète. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de respect sur le terrain.
Oui, il y a aussi autre chose concernant le fait qu'il y ait des écoles qui soient aussi éloignées que les élèves. Est-ce que vous avez pensé à cela? Vous demandez peut-être de pouvoir restructurer certaines configurations, rapprocher les élèves des écoles ou construire des écoles plus proches des élèves, parce qu'il y a des élèves qui doivent maintenant, pour l'instant, parcourir plusieurs kilomètres avant de pouvoir atteindre un centre ou une école. Est-ce que vous avez un programme dans ce sens-là?
Oui, ça c'est la cartographie de quoi c'est à niveau de l'école de l'EPSE. Mais nous, au niveau des affaires sociales, surtout pour encadrer les jeunes, des enfants là de 9 à 15 ans, de 9 à 11 ans, des enfants déscolarisés, nous avons un système. Donc, il y a aussi une stratégie de faire faire, donc c'est l'école sous l'arbre. Donc, nous pouvons enseigner les apprenants ou les adultes sous l'arbre. Donc, ce n'est pas tellement
l'infrastructure.
Donc, on peut le faire.
N'importe où. Nous allons écouter d'autres auditeurs. Nous avons déjà le professeur Pierre Gambembo. Il est du secteur de l'éducation. Il travaille à l'UNESCO. Mais aussi, nous demandons aux femmes de pouvoir intervenir parce que ce sujet vous intéresse d'autant plus que le thème pour cette journée internationale de l'alphabétisation, c'est le pouvoir de l'alphabétisation des femmes. Alors, vous, les femmes, si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, vous avez la priorité. Vous pouvez participer à cette émission en composant le 081-890-6315, le 081-890-6315. Mais la seconde possibilité, c'est de nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Donc, toute femme qui est en train de suivre cette émission, vous pouvez intervenir, vous exprimer parce que ce sujet vous intéresse. Bonjour, professeur Pierre Gambembo.
Bonjour, madame.
Oui, est-ce que c'est possible que vous puissiez éteindre carrément votre poste récepteur qui est à côté de vous? Comme nous l'avons dit, vous travaillez à l'UNESCO, vous travaillez dans le secteur de la promotion de l'éducation. Nous savons que l'UNESCO fait beaucoup pour promouvoir l'éducation, mais ici en RDC, quelles sont les activités, les actions que vous avez menées?
Bien, merci madame. Je voudrais d'abord dire que le rôle de l'UNESCO dans les domaines en particulier à l'éducation consiste à appuyer le ministère, le gouvernement. Donc, nous ne menons pas de choses concrètes sur le terrain parce que ces actions sont des volumes partenaires qui sont des partenaires de mise en œuvre. L'UNESCO a comme rôle fondamental par rapport à cette question-là d'appuyer le gouvernement à pouvoir mettre justement l'activité en œuvre et de pouvoir faire progresser l'alphabétisation. Concrètement, de quoi il s'agit? Plus que pour répondre à la question que de nombreux auditeurs ont relevée tout à l'heure en filigrane, c'est la question du sous-investissement du secteur de l'alphabétisation. Le secteur n'est pas suffisamment financé, les partenaires n'interviennent pas suffisamment dans ce secteur, parce que de notre point de vue, il y a à la base fondamentalement une absence de cadre stratégique d'intervention. les partenaires seront rassurés et interviendront en émettant du financement dans la mesure où ils sentent qu'il y a un cadre stratégique qui est défini, qu'il y a des objectifs clairs et précis qui sont poursuivis et qui peuvent être atteints. Et donc, par rapport à ce gap, l'UNESCO et les autres partenaires essaient d'amener les ministères à se doter d'une stratégie de développement de l'éducation non formelle. Et l'autre aspect, c'est que le directeur qui est avec vous au studio l'a plus ou moins évoqué, c'est la question des programmes. L'UNESCO a élaboré une initiative qu'on appelle l'initiative LIFE, savoir pour pouvoir, et la RDC figure parmi les pays LIFE. Et ça, c'est l'effort de l'UNESCO qui a fait que le pays figure dans cette initiative-là. Et donc, c'est également un cadre d'intervention à travers lequel l'UNESCO et d'autres partenaires peuvent appuyer le développement et la promotion de la radicalisation en République démocratique du Congo.
Oui, professeur, tout de suite là va intervenir notre bulletin d'information. Nous vous invitons à rester avec nous. Nous allons poursuivre à échanger avec vous pour savoir que fait l'UNESCO sur terrain, le programme de l'UNESCO concernant l'alphabétisation en RDC. La même chose avec notre invité qui est au studio. Je vous invite à suivre notre bulletin d'information. Après ce bulletin, nous aurons encore à peu près 15 minutes d'échange sur la question.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons cette émission Parole aux auditeurs aujourd'hui, 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui permet de mettre un accent sur les enjeux de l'alphabétisation dans un pays, surtout notre pays, la RDC, qui est en voie de développement. Et selon les statistiques de 2008-2009 de l'UNESCO, la RDC compte près de 18 millions d'analphabètes, soit environ un quart de la population. Et il faut dire que les trois quarts de ces analphabètes, ce sont pour la plupart des femmes. Et le thème pour commémorer cette journée, c'est le pouvoir de l'alphabétisation des femmes. Dans ce studio, nous avons invité M. Albert Louban-Vadio. Il est directeur chargé de programme d'alphabétisation et éducation non formelle, une direction du ministère des Affaires sociales. Nous avons gardé en ligne le professeur Pierre Gambembo. Il travaille à l'UNESCO. Il est chargé en fait de la promotion de l'éducation. Avec lui, avant ce bulletin d'information, nous avons commencé à échanger par rapport aux actions de l'UNESCO dans ce secteur d'alphabétisation. Professeur, j'espère que vous êtes toujours en ligne.
Oui, je suis en ligne, madame.
Le thème de cette année, c'est le pouvoir de l'alphabétisation des femmes. Pourquoi cet accent pour les femmes? C'est vrai qu'elles sont nombreuses à être analphabètes, mais pourquoi les femmes? Que pensez-vous qu'une femme peut faire pour le développement de notre pays?
Oui, absolument. La première raison, c'est les femmes, c'est une raison de discuter. Vous savez que dans le domaine de l'éducation, comme dans tous les autres domaines, de plus en plus, on se bat pour parvenir à une équité de droit. Et donc, dans la mesure où on se rend compte qu'il y a plus de femmes analphabètes que d'hommes, le simple principe de justice sociale demande que l'on se penche sur la situation des femmes de manière à les ramener à un même niveau que les femmes. Donc, c'est d'abord un principe d'équité de justice sociale. La deuxième raison, c'est que, comme on le sait, la femme est une actrice fondamentale dans l'éducation des enfants et dans le développement des sociétés. Le plus couramment chez nous, ici, on dit qu'il y a une femme et tout un peuple. Donc, on se dit qu'en mettant l'accent sur l'alphabétisation des femmes, on arrive à leur autonomisation, mais on arrive également au développement des peuples, des familles et des nations. Donc, c'est forcément pour ces deux raisons, si vous pouvez me dire qu'elles sont philosophiques, mais elles sont véritablement réelles. C'est donc pour ces deux raisons qu'on pense qu'il faut mettre l'accent sur l'alphabétisation des femmes en vue de les conduire vers leur autonomisation et donc leur permettre de se libérer. Parce qu'au bout de compte, une femme qui est alphabétique, c'est une femme qui devient autonome, c'est une femme qui se libère. Elle se libère d'un certain nombre important de contraintes que la société lui impose, et même parfois que les gens, non, que l'homme, je veux dire, lui impose aussi.
Mmh. Et au regard de tous ces projets sur terrain, vous financez ou bien vous donnez de la formation?
Non, nous ne donnons pas de la formation parce que ça, c'est le rôle des partenaires de mise en œuvre, dont le ministère des Affaires sociales, à travers la Direction générale d'éducation non formelle d'alphabétisation, c'est le rôle également des ONG partenaires qui travaillent avec nous. Donc nous les mettons, nous n'allons pas faire les formations. Nous apportons notre appui technique parce que, ça, il est important de le dire, l'UNESCO n'est pas un bailleur de fonds. L'UNESCO est un organisme technique. Donc notre premier apport, il est un apport technique. Nous apportons notre contribution technique. Dans la mesure du possible, dans un moindre degré, nous apportons notre contribution financière.
Voilà.
Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, nous mobilisons les partenaires ou sinon nous apportons notre appui au ministère pour l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'alphabétisation de l'éducation non formelle. C'est un appui technique simplement que nous apportons à ce niveau-là.
Oui, et une dernière question avant que nous puissions nous séparer. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur terrain?
Nos difficultés, c'est, comme beaucoup d'auditeurs l'ont dit, c'est les peu d'intérêt. C'est beaucoup accordé à l'alphabétisation comme mécanisme de libération du sous-développement. Lorsqu'on regarde notamment les contributions financières apportées au secteur de l'éducation, elles sont importantes, aussi des publics que des partenaires. Cela nécessite donc une réelle prise de conscience du rôle que l'alphabétisation des hommes et des femmes en particulier peut jouer comme facteur de développement. Lorsque vous regardez par exemple les objectifs du millénaire pour le développement des zones D, le premier objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Dans les contextes actuels, il est impossible d'arriver à éradiquer la pauvreté si on a des personnes qui ne sont pas capables de lire, qui ne sont pas capables de calculer, qui ne sont pas capables de compter. Et certaines personnes ne peuvent plus parvenir pour pas de moins de l'alphabétisation. Donc, l'alphabétisation devient finalement un moyen de lutte contre la pauvreté. Lorsque vous regardez les objectifs de l'éducation pour tous, il est dit qu'on doit privilégier la formation des adultes et des jeunes. Ceci constitue également un facteur vers le progrès des sociétés. Donc nous considérons qu'à tout point de vue, quel que soit l'angle que l'on prend, on finit par arriver au fait qu'on ne peut pas arriver au développement d'une nation, on ne peut pas arriver à éradiquer la pauvreté dans une société si les personnes n'ont pas reçu les qualifications nécessaires pour cela. Or, ces qualifications passent nécessairement par l'éducation, qu'elle soit formelle ou non formelle. Et là, nous insistons pour ce qui est des adultes sur l'éducation non formelle, l'alphabétisation. C'est véritablement les moteurs de développement et les nations développées l'ont compris. C'est pour ça que lorsque vous regardez la part des budgets, c'est tout l'État qu'on consacre à cette forme d'éducation et le plus important. Sinon, le plus important, c'est pour l'éducation formelle.
Merci beaucoup, professeur, pour votre temps que vous avez accordé. La parole aux auditeurs. Nous allons prendre le dernier auditeur de cette émission. Il s'agit de Joachim. Il a Idofa. Bonjour.
Bonjour. Je voudrais intervenir pour les problèmes de l'éducation.
Oui, on vous écoute, Joachim. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut que les gens étudient comme il faut. Les enfants se donnent corps et âme pour étudier. Donc, je ne passe pas à partir de 5 ans, vous voyez déjà un enfant qui a abandonné ses parents pour aller suivre les études. Alors, il y a une toute majorité des gens qui aiment les études par rapport à ceux de Gassaille, par exemple, à nos conseils de Gassaille. Maintenant, je voudrais demander, qu'est-ce que le ministre pense récompenser, par exemple, à notre zone du Diofa pour la population qui aime, même les parents qui s'abonnent pour que les enfants puissent étudier. Alors, il faut, même peut-être de choses, je dirais. Mais nous n'avons pas de possibilité. Il faut envoyer les enfants pour aller ne plus apprendre un I, un A, tout à fait. Donc, quelle récompense peut-être peut donner à ce point?
Mais à ces parents, plus de motivation hein, aux parents qui envoient leurs enfants à l'école, c'est ça votre préoccupation?
Oui, vraiment.
Merci beaucoup, Joachim, de votre intervention. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Avec l'invité, nous allons essayer de conclure enfin l'émission consacrée à cette journée internationale de l'alphabétisation. Vous pouvez nous dire, pour conclure, Monsieur Albert Lubanzadio, vous avez suivi encore cette dernière série avec l'intervention du professeur Pierre Gambembo de l'UNESCO. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Parce que le professeur a dit qu'il y avait un problème de cadre, de stratégie à pouvoir définir. Donc jusque-là, c'est encore un projet, c'est en chantier. Où est-ce que vous en êtes?
Concernant la stratégie de l'ALPA, l'éducation non formelle en RDC, nous sommes en train maintenant d'amorcer l'élaboration de cette stratégie. Puisque nous avons commencé avec l'état du lieu d'alphabétisation, c'est fait. Et nous avons aussi amorcé le voyage de son expérience pour voir ce que les autres ont fait ailleurs. Et puis de là maintenant, son excellence, monsieur le ministre Kambere, a pris des arrêtés créés à la commission qui doit élaborer la stratégie ou la politique. Et puis l'arrêté désigne les membres. Donc bientôt, ces membres seront à l'œuvre pour élaborer la stratégie de la éducation en commun.
Il faudrait encore que les moyens puissent suivre.
Non, les moyens sont là, c'est disponible. Donc c'est question de se mettre ensemble, de commencer le travail.
Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir en bref concernant cette journée internationale de l'alphabétisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut être fait en conclusion?
En conclusion, bon, je remercie d'abord tous nos partenaires techniques et financiers, et puis je remercie aussi tous nos partenaires qui sont sur le terrain, donc les ONG, confessions religieuses, et puis je remercie aussi nos directeurs de centre qui sont sur place, en train de faire un bon travail sur le terrain, et puis j'ose croire que nous devons lutter pour éradiquer l'analphabétisme dans notre pays, donc ça demande des moyens et puis ça demande aussi la volonté. Donc il faut qu'il y ait la volonté des individus puisque en soi l'alphabétisation en RDC ça perdit avec le système de bénévolat. Donc c'est tout dans nos centres de confession religieuse et puis les ONG. Donc l'État maintenant, nous sommes en train de lutter au niveau de la direction générale de l'éducation enfant-mère pour voir comment nous pouvons subventionner donc nos centres, donc les centres viables. Donc il y aura, je crois, nous devrons procéder à une enquête de viabilité des centres. À ce moment-là, nous pouvons financer ou aider, subventionner des centres qui sont viables pour relever leur niveau.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la lutte contre l'analphabétisme en marge de la journée internationale de l'alphabétisation. Merci Monsieur Albert Louban-Zadio. Je rappelle que vous êtes le directeur chargé de programme d'alphabétisation et éducation non formelle, une direction sous la tutelle des affaires sociales. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous prenons rendez-vous demain avec un autre numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Demain, nous parlerons du projet de révision du Code de la famille. À ce propos, presque une centaine de dispositions de ce code pourraient être révisées. Avec Thierry Lamézi qui va animer l'émission de demain, vous avez l'opportunité de donner votre avis à ce sujet. Parmi les dispositions qui pourraient être révisées, il y a l'autorisation maritale ou encore la notion de chef de famille ou les différentes formes de mariage et autres dispositions que vous allez découvrir demain. La question, comment réagissez-vous face à ce projet de révision? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Merci à Pierrot qui était à la réalisation, sans oublier Nicole Ndaka à la supervision, Sylvain Matundou à la mise en onde, Marie-Chantal Lumba à la présentation. À la prochaine.